Chers auditeurs, chères auditrices, c'est vraiment avec un immense bonheur que je commence avec vous cette série de messages sur le thème « Élargis l'espace de ta tente » tiré du livre d'Ésaïe 54 de la Sainte Bible. Ce thème « Élargis l'espace de sa tente » est une instruction que l'Éternel m'a donnée en 2013 avec insistance, et que j'ai reçu profondément dans mon cœur, car c'était déjà pour moi la réponse à mes prières et aussi une direction vraiment pour ma vie spirituelle en cette saison. Je me suis attelée à comprendre cette instruction, à recevoir par l'Esprit de Dieu les révélations qu'elle contenait. J'ai désiré rechercher l'intelligence du Saint-Esprit parce que je souhaitais saisir la pensée de Dieu dans cette instruction-là, au travers les Écritures, car je voulais vraiment obéir à cette instruction et me mettre en application, et la mettre en application dans ma vie. Cette série de messages est donc vraiment le fruit de ce travail et je désire le partager avec vous qui écoutez ce message maintenant, avec vous qui écoutez au travers de ce site, avec le corps de Christ de façon générale, je souhaiterais partager, mais avec les nations entières même, au travers des ondes, au travers des radios, au travers d'autres sites de diffusion. Dans le cadre de mon service spirituel et de ma communion avec Père, en partageant avec vous au travers de ce message des révélations et des enseignements qu'il me donne, je veux répondre ainsi à une autre instruction, à une autre alliance que j'ai avec lui, qu'il m'a donnée, partager mon pain avec ceux qui ont faim, dans Ésaïe 58. Oh, vraiment, c'est une alliance que j'ai passée avec Père dans mon parcours spirituel, et qu'il me demande de partager mon pain avec ceux qui ont faim, faim et soif de la parole de Dieu, faim et soif de connaissance. Dans ce contexte aussi, je désire partager avec tous ceux qui, comme moi, en cette saison, sont dans un désir d'être positionnés sur leur plateforme d'action, d'être établis à leur poste spirituellement et même humainement, physiquement, des personnes qui ont le désir vraiment d'être établi comme ça sur leur territoire, dans leur champ missionnaire, ou d'accomplir de façon agréable à Dieu et avec fidélité les œuvres que l'Éternel leur confie. J'ai envie de partager ce message avec des personnes qui sont dans un même état d'esprit que moi, dans cette quête de pouvoir évoluer dans leur processus spirituel, dans leur vie spirituelle avec l'Éternel, en obéissance à, vraiment aux instructions et aux missions que l'Éternel leur donne. J'ai aussi envie, en partageant ce message, de le partager avec ceux qui sont, en cette saison, dans un processus d'accomplissement, dans un processus de réalisation de soi, dans un processus de conquête, dans un processus de prise de décision pour leur vie, pour leur orientation, dans un processus d'établissement, dans un processus d'expansion, dans un processus d'envahissement, dans un processus d'occupation. Toutes les personnes qui sont dans une progression de leur vie spirituelle à une étape donnée où ils veulent voir se manifester, matérialiser dans leur vie la présence de Dieu, les promesses de Dieu. Voilà, cette instruction, je l'ai reçue à cœur, comme je le disais, et je l'ai travaillée au cours de ce travail, j'ai réalisé dans son étendue les relations que Père pouvait donner. Ça m'a permis de comprendre vraiment cette instruction dans sa largeur et vu sa richesse, je souhaitais le partager avec vous. L'apôtre Paul nous dit dans les Écritures, l'apôtre Paul, que notre Seigneur Jésus a vraiment oint et établi dans pour nous clarifier son évangile. Il nous dit dans son épître aux Éphésiens, son chapitre 4, il nous instruit sur le rôle que chacun doit jouer dans le corps du Christ. Il dit chacun en qui la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Il a fait les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Et pour un seul but, c'est celui du perfectionnement des saints pour l'œuvre du service, pour l'édification du corps de Christ. C'est un peu dans cette optique-là que ce que nous faisons ou ce que nous communiquons doit pouvoir édifier le corps du Christ, doit pouvoir perfectionner les saints, doit pouvoir concourir à l'œuvre et à l'édification du corps. Et le partage de ces révélations par le biais de ces messages concourt à cela. Par ailleurs, je voudrais préciser que le site internet héritageduroyaume.com, à travers lequel ces messages sont premièrement diffusés, est le résultat, un an après avoir reçu cette instruction, le résultat de mon obéissance et de la mise en pratique de cette instruction dans ma vie. C'est la matérialisation de cet élargissement, de cet ordre d'élargissement dans ma vie. Voilà. Donc, sur le plan, de façon générale, pour introduire un peu cette série de messages, sur le plan biblique, tous les observateurs dans le corps du Christ, dans la foi, de façon globale, s'accordent pour dire que nous sommes dans les temps de la fin. Et pour l'Église, le corps du Christ, c'est vraiment un temps qui revêt un caractère assez particulier quant au retour de notre Seigneur Jésus, quant à notre mission et quant à l'héritage même des enfants de Dieu sur cette terre. C'est vrai, nous sommes dans ces temps-là. Et depuis quelques années, 2, 3 ans, c'est-à-dire depuis le début de la décade des années 2010, nous sommes rentrés dans une saison où les assemblées, les églises, les communautés chrétiennes de par le monde reçoivent de la part du Saint-Esprit des instructions pour leurs églises, pour leurs assemblées, pour la conduite de leur ministère, des instructions qui tournent autour effectivement de la conquête, de l'établissement, d'accomplissement, de percée, de récolte, d'élargissement, d'extension, d'expansion, d'occupation, de manifestation de la gloire de Dieu. Et le Seigneur ou l'Esprit de Dieu les invite véritablement à rentrer dans un processus de possession de façon individuelle pour chaque disciple ou de façon collective, même en tant qu'Église ou comme assemblée. Et c'est vraiment global. Moi, qui travaille beaucoup par le biais d'Internet, qui regarde comme ça vraiment de façon globale, peu dans le corps du Christ, je me suis intéressée comme ça au début de l'année, au cours de ce travail, d'aller voir, d'aller sonder auprès de toutes les églises. Je pouvais avoir accès comme ça sur leurs informations de façon globale, ceux qui ont des sites, ceux qui ont des newsletters de communication ou sur Facebook et communiquent, pour voir un peu quel était l'axe de leur message annuel. Et vraiment, j'ai été surprise, agréablement surprise, parce que ça confirmait ce que je recevais en moi par rapport à cette instruction de l'Esprit de Dieu dans ce sens, dans le sens de la conquête, dans le sens de l'établissement, dans le sens de l'accomplissement. Je me suis vraiment rendu compte que, de façon générale, les assemblées, les églises étaient dans cette dynamique-là. Ça m'a confirmé dans cette voie que Dieu veut vraiment, Dieu veut assurément, véritablement faire quelque chose de particulier en cette saison, en cette décade, avec son royaume, dans son royaume, avec le corps du Christ. Voilà. Nous sommes dans une saison où l'Éternel a vraiment entrepris d'amener son peuple à une autre dimension d'évolution. Il veut amener son peuple vraiment à occuper des positions stratégiques Il veut l'amener à un niveau supérieur de possession de l'héritage en Jésus-Christ, à un état d'une réelle métamorphose, qu'elle soit interne et spirituelle, à une transformation profonde des disciples de Dieu, de son assemblée, de son corps, afin que vraiment le royaume de Dieu puisse manifester, le corps du Christ puisse manifester vraiment un esprit supérieur, que les disciples de Jésus, que les enfants de Dieu puissent manifester, se mouvoir dans la manifestation d'un esprit supérieur, supériorité en sagesse, supériorité en intelligence divine, supériorité en science, parce que ce sont des éléments qui les amènent, par lesquels ils pourront être des conquérants, par lesquels ils pourront vraiment triompher et posséder l'héritage qui est le leur, et agir véritablement pour que le règne de l'Éternel Dieu notre Père vienne, que sa volonté soit faite sur la terre. Ah, c'est clair. L'Éternel veut véritablement que le corps du Christ, l'ensemble du corps du Christ, les enfants de Dieu, puissent se mouvoir avec une intelligence qui va leur conférer des facultés d'interpréter des songes, des rêves, d'expliquer des énigmes et résoudre les questions difficiles, d'être à mesure d'apporter des solutions là où il faut des solutions, qu'ils soient eux-mêmes de véritables solutions, à l'instar de notre Seigneur Jésus. Dieu veut vraiment dans cette saison que l'Église, le corps du Christ, soit la réponse, soit au monde d'aujourd'hui. Parce que le monde, il est vraiment de plus en plus malade. Mais le royaume de Dieu doit pouvoir être la solution pour cela. Et apporter des solutions partout où ils sont. Parce que le corps du Christ, les enfants de Dieu, sont appelés à être la lumière du monde. Dieu veut véritablement qu'en cette saison, cette lumière puisse être vue en chacun des fils, en chacun des enfants de Dieu, qu'ils puissent vraiment rayonner partout où ils sont, que ce soit dans des petites cellules, que ce soit dans de grands environnements, véritablement. Le Seigneur désire, au travers de cette orientation qu'il veut donner, désire vraiment en ce temps que le royaume de Dieu en Jésus-Christ s'étende sur les nations, qu'il conquiert comme ça les territoires laissé à l'ennemi pendant longtemps. Et ça se voit par rapport à ces instructions qu'il dispose dans le corps de Christ au travers de ses serviteurs, de ses soins, de tous les conducteurs des assemblées, des groupes, des églises, des missions, etc. Et il attend vraiment du corps du Christ, individuellement ou en groupe, que les gens s'investissent véritablement acquérir cet esprit supérieur avec lequel ils vont fonctionner pour que l'Esprit de Dieu se mette vraiment en eux et qu'ils se mettent à la disposition, qu'ils se soumettent vraiment à cet Esprit de Dieu pour que l'Esprit de Dieu puisse œuvrer au travers d'eux pour les amener justement à agir de la sorte. On va constater une chose aussi, c'est que depuis la venue du deuxième millénaire, dans le corps du Christ, de façon globale, on prophétise, c'est vrai, on prophétise un grand réveil spirituel. C'est vrai. On a dit, dans les années 2000, quand le deuxième millénaire est arrivé, on s'accorde pour dire que c'est le millénaire des valeurs immatérielles, qui est vrai. Ça veut dire que les choses sont appelées à devenir, la pensée est appelée à devenir de plus en plus spirituelle. Oui, les grands réveils sont vraiment prophétisé un peu partout, en Europe, beaucoup, en Amérique du Sud et tout. Et ça se voit même, ça a commencé dans plein de régions. Ça a commencé à se manifester, ça traîne un peu par endroits, etc., en fonction des forces de résistance qui sont pesantes. Mais cette prophétie est réelle. Ce réveil spirituel annoncé, c'est vrai. Elle est annoncée bibliquement aussi. Nous savons, nous connaissons tous la promesse de l'onction d'Élie que l'Éternel dit dans Joël 2, qu'après cela, il déversera. Lisons la prophétie de Joël. Dans Joël 2, au verset 28, il est dit quelque chose. Il est dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens auront des visions. C'est un verset qui est profond, lourd par lui-même, véritablement, qui est large. Mais c'est un verset qui, en gros, veut dire cela, c'est-à-dire la finalité de ce que l'Éternel veut faire avec nous, de ce que Christ veut donner à son Église, la capacité de pouvoir se mouvoir en une dimension de l'esprit qui leur permette d'être vraiment au-dessus, triomphateur, sur les choses du monde et qui permettent comme ça que le règne du Père s'établisse et que le royaume de Dieu s'étende et gagne du terrain. Ça, c'est vrai. Mais moi, j'ai envie, quand j'ai fait ce travail d'élargissement de l'espace de l'attente, j'ai voulu comprendre dans tous ces aspects ce que ça voulait dire, j'ai compris en fait que ce verset-là, beaucoup d'églises ont le proclame quand beaucoup de gens, moi j'ai entendu beaucoup de prêches, beaucoup de prédications, on prend toujours le verset dans isolé. On dit toujours, oui, il est dit dans Joël 2, 28, après cela, le frère, nous sommes déjà dans les temps où on va déverser l'esprit d'Élie sur toute chair. Je dis oui, c'est vrai, c'est écrit comme ça. Mais moi j'ai l'habitude, quand on a un verset, de le prendre dans son ensemble, c'est-à-dire de regarder le contexte avant et après le verset, pour pouvoir situer, camper le verset dans un ensemble, pour en tirer une meilleure quintessence, une meilleure compréhension. Et moi, quand je regarde ce verset-là, dans le cours de mon travail, quand je regarde ce verset après cela, le terme « après cela » a attiré mon attention. Quand on dit « après cela, je répondrai », cela suppose que « après cela, quoi ?»« Après cela, après quoi ?» Est-ce qu'il vendrait ? Moi, ça me fait penser que ce déversement-là de l'esprit d'Élie est conditionné par quelque chose de particulier. C'est sous condition. Ça ne viendra qu'après que quelque chose se soit passé. Alors je me suis dit, je vais aller voir de quoi il s'agit vraiment. Quand on prend le livre de Joël dans son ensemble, de vraiment Joël de son chapitre 1 au verset 1 jusqu'au dernier chapitre, on se rend compte que c'est un tout. Et c'est un tout parce que ça balaie vraiment de temps bien ancien jusqu'au temps à venir. Mais au milieu, il a campé quelque chose de particulier qui correspond au temps de maintenant. Il y a une avance là. Et une avance là, qu'est-ce que moi j'ai constaté? J'ai constaté en résumant de façon globale trois étapes avant la quatrième étape qui est l'étape de l'après cela. J'ai remarqué qu'il y avait une progression dans les saisons. Il y avait une progression dans les saisons qui s'inscrivait clairement dans la promesse de Dieu, dans ce que l'Éternel libérait au travers de la bouche de Joël. Il y a la première phase, qui est la phase, oui, de l'agression de l'ennemi. L'agression par la nature, les sauterelles, l'agression par le manque, avec la famine et la destruction des biens, des aliments, et l'agression aussi par la main armée, par les armées des peuples adverses, ce qui a conduit au dépouillement du peuple. On peut me dire dans le corps du Christ, oui, ça, cette phase, hein, c'est passé. C'est passé parce que notre Seigneur Jésus est venu mourir à la croix pour nous, pour nous ramener dans le salut de l'Éternel. Il rappelle encore, pour pouvoir souscrire à cela, il rappelle le peuple à la repentance. Il rappelle le peuple à la repentance, et une repentance qui est générale. Il attire l'attention du peuple dans son ensemble, des sacrificateurs, des conducteurs. Il attire leur attention sur le fait qu'il faut publier des jeûnes collectifs, que tout le monde doit pouvoir se mettre au diapason. Tout le monde doit pouvoir se repentir de la situation qui présente. Si nous lisons dans Joël 2, en commençant par, en regardant à son verset 15, Joël dit, sonnez de la trompette en Sion, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler le peuple, former une sainte réunion, assembler les vieillards, assembler les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre, qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne mon peuple ». Voilà, dans cette optique-là, Joël nous dit que ça doit pouvoir se faire d'une certaine façon pour que l'opprobre qui est sur le peuple puisse être levé. C'est une étape dans la progression. C'est une véritable étape où les églises ou le corps de Christ aujourd'hui doit passer. Parce que je rappelle que j'ai commencé à lire ce verset, ce chapitre au verset 15. Il dit « Sonnez de la trompette en Sion ». Et je dis juste une petite parenthèse pour faire un peu de ma compréhension de ce que l'Esprit a mis en moi pour faire la nuance entre Sion et Israël. C'est vrai, dans l'Ancien Testament, quand on rassemble le peuple et que c'est ponctuel, présent, c'est Israël. Quand on veut parler du peuple d'Israël, dans son temps, le temps du peuple d'Israël. Mais quand on parle de Sion, c'est on parle de l'Israël céleste, c'est-à-dire l'Israël à venir. C'est-à-dire que même du temps d'aujourd'hui, moi je dis c'est Joël, tout comme Ésaïe, sont des prophètes un peu atemporels. C'est-à-dire ils ont reçu des révélations qui englobent le passé, le présent, l'avenir, qui englobent tout parce qu'ils englobent l'itinéraire, le parcours que doit suivre le Fils, que doit suivre l'enfant de Dieu, que doit suivre la personne qui est en connexion avec Dieu, que doit suivre celui qui marche avec l'Éternel. Et c'est important. Donc, ça ne se campe pas à une période donnée. C'est à chaque moment, chaque chrétien doit pouvoir suivre un processus parce que chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque personne qui croit en l'Éternel et qui croit en l'Éternel même avant Jésus-Christ ou après Jésus-Christ et qui est chrétien, est un fils de Sion, c'est important, est une fille de Sion, c'est important. Donc, quand on rappelle, on sonne pour rappeler les Sion dans son ensemble en l'action de repentance, ça nous concerne, nous, même dans le temps présent, ça concerne individuellement chaque chrétien, individuellement chaque église, chaque regroupement. Et c'est important de voir cela. Donc, c'est des actions collectives. C'est des actions qui doivent déjà aller dans la repentance et dans la prière. Et ça, c'est important. Et il dit que personne ne reste chez lui. Que la plupart des personnes se repentent. Donc, si vous êtes une assemblée, si vous êtes une maison, si vous êtes une demeure, si vous êtes des chrétiens, ou de façon individuelle, il faut être concerné par cette action de repentance et se repentir devant de l'Éternel. Ça, c'est la deuxième étape de la progression. Il y a des personnes qui ont fait ce parcours avec Dieu. Il y a des églises qui ont fait ce parcours avec Dieu. Il y en a qui ne l'ont pas encore fait et qui vont être obligés de passer par là. Ça, c'est clair. Quelqu'un qui a juste, qui est peut-être au début de sa foi, qui est peut-être au début de sa foi, et qui n'a pas encore entamé ce parcours, va devoir le faire et passer cette deuxième phase de progression pour pouvoir atteindre le niveau de la troisième étape dans laquelle il rentre dans la réponse de Dieu. Parce que la troisième étape, c'est que Dieu, ému par l'acte de repentance du peuple, va agir pour surseoir à la punition, va agir pour restaurer le peuple et restaurer les bénédictions et la grâce qui est établie, l'héritage tant physique que physiquement les biens matériels ou ceux du corps. Ça, c'est clair, il va pouvoir l'établir. Quand si on lit dans Joël 2, dans le verset 18 à 27, on se rend compte qu'il énumère un certain nombre de choses, des choses qu'il fera restaurer, des choses qu'il fera revenir, des choses qu'il fera rétablir, etc., pour établir les richesses physiques, pour établir les richesses de l'homme, de façon globale, d'abord. Et c'est là où il dit, après cela, c'est là où il dit, après cela, c'est-à-dire après que toutes ces étapes aient été accomplies, il attaquera l'héritage spirituel. Après cela, il répandra donc la grâce spirituelle et l'onction sur tous pour pouvoir agir de façon courante. Donc ce qui est important de saisir, c'est qu'il ne faut pas que les uns et les autres attendent ou espèrent l'onction, délit sur eux, s'ils n'ont pas passé le avant cela, ils ne peuvent pas recevoir le après cela, s'ils n'ont pas passé le avant cela. Souvent, moi, j'ai l'impression, quand on utilise ce verset, c'est comme si de fait, à un moment donné, ça va se répandre seulement sur tout le monde. C'est vrai qu'il a dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même les serviteurs et les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Mais après cela, il ne faut pas qu'on perde de vue. Après cela, et c'est très important, et ça se répercute aujourd'hui dans notre vie quotidienne et dans le cadre où le Seigneur est en train de demander dans son ensemble que les personnes individuellement ou des églises fassent un processus pour pouvoir progresser justement dans ces différentes étapes, pour pouvoir arriver justement, précipiter justement la saison du après cela dans leur vie. Quand je parle ainsi, vraiment, je m'exprime de mon cœur et c'est moi ma compréhension de tout ça. Certains vont sans doute me dire, bon, mais de quoi est-ce qu'elle nous parle et tout, ce sont des versets qui sortent de l'Ancien Testament, ce sont des, etc. Aujourd'hui, notre Seigneur Jésus est venu, il est mort à la croix, les choses passées sont passées, les choses anciennes sont anciennes et les choses nouvelles vont être là, etc. Et que la Pentecôte est déjà survenue, l'Esprit de Dieu est déjà sur nous. Et tout. Moi, j'ai envie de dire que c'est vrai. Notre Seigneur Jésus est venu. Notre Seigneur Jésus a payé le prix pour nous rendre, donner l'opportunité, la capacité de pouvoir être enfants de Dieu et de pouvoir marcher donc vraiment vers ce triomphe, vers cette victoire-là. Et la Pentecôte a été réalisée, les apôtres l'ont reçue, les 3000 ont reçu après, ainsi de suite, à l'âge des temps. Mais j'ai envie de dire une chose. Chacun vit sa propre Pentecôte. Chacun vit sa propre Pentecôte. L'Esprit de Dieu est libéré, l'Esprit de Dieu est présent, mais chacun vit sa propre Pentecôte. Surtout, chacun vit en fonction de sa relation avec Dieu, de sa communion avec Dieu. Chacun vit sa propre Pentecôte. Et surtout, chacun vit la capacité de manifester les œuvres de la Pentecôte dans sa vie. Je ne pense pas qu'il faut le prendre de façon automatique. Ça a été libéré sans doute de ça. Oui, mais de nombreuses personnes parmi nous encore ne manifestent pas encore les œuvres de la Pentecôte. Nous le voyons tous les jours. Beaucoup ne manifestent pas encore le fruit de l'esprit en eux. Donc ce n'est pas automatique et pour moi, je ne pense pas qu'il s'agit que ce qui est annoncé à Joël après cela, il s'agit de la Pentecôte. Ce n'est que le début. Même lorsque Pierre, après avoir prêché dans Actes 2, chapitre 19 et 20, lorsqu'il a prêché et qu'il a eu 3000 conversions, lorsqu'il a dit au peuple pour les convaincre, vous ne vous souvenez pas que Joël a annoncé cela, ça ne fait que commencer. C'est ça qui vient maintenant. Commencement. Certains l'ont reçu, d'autres vont le recevoir. C'est dans un déroulement. Et comme je le dis encore, c'est dans un processus qu'il faut faire le recevoir. Quand je dis que, en fonction de la relation de chacun avec Dieu, en fonction de la communion de chacun avec Dieu, en fonction du désir de chacun de pouvoir manifester le fruit de l'esprit, de pouvoir recevoir même cet esprit, la plénitude de cet esprit en lui. Parce que souvenons-nous d'une chose, les apôtres même qui étaient proches de Jésus ont dû, à la demande de Jésus, passer 40 jours sans s'éloigner de Jérusalem, il leur a dit. Rester en jeûne et en prière. Rester ensemble. Ne vous éloignez pas. Cela, cette contrainte, cette implication, ça augure déjà de la nécessité du positionnement spirituel qui précède la Pentecôte de chacun. Ça veut dire qu'à l'instar des apôtres, où ils sont restés en prière, en jeûne, soudés et quelque part, en obéissance à une instruction que le maître avait donnée, chaque chrétien doit pouvoir se positionner véritablement par rapport à sa relation personnelle avec l'Éternel en Jésus-Christ. pour pouvoir recevoir sa propre Pentecôte, ce qui est important, pour pouvoir recevoir vraiment la plénitude du Saint-Esprit, déployer la plénitude du Saint-Esprit en lui. Moi, c'est, je pense véritablement, viendra, au bout de cela, viendra vraiment le temps où le déversement sera quasi général. Parce que les uns, puis les autres, tous les autres auront pris et ce réveil va se faire par l'eau individuellement, puis collectivement, par assemblée de bord à bord, pour pouvoir grandir le nombre qui doit manifester justement tous ces privilèges de l'esprit déversé. Ça me semblait important de faire ce pas parallèle, parce que dans les messages qui vont suivre, l'instruction, le texte d'Ésaïe 54, vraiment m'a paru être dans son détail riche d'instruction, dans ce que l'Éternel veut nous amener à comprendre et à faire véritablement. Je pense que le propos que je tiens là en introduction un peu sera plus clair au fur et à mesure des messages qui seront donnés. Je tenais ce propos pour essayer d'expliquer vraiment la nécessité et le désir que l'Éternel a en cette saison de déployer son corps, de déployer ses églises dans une certaine dynamique, dans une certaine orientation. Voilà, pour aller à la conquête de quelque chose, pour posséder véritablement quelque chose. Parce que le Seigneur veut déverser cela, parce que le Seigneur veut arriver quelque part avec vraiment le corps du Christ. Dieu veut véritablement faire un bond. Il veut faire un bond au corps du Christ. Il veut lui faire expérimenter une progression véritable vers l'accomplissement de sa promesse de l'esprit sur toute chair, ça c'est vrai, garantie pour tous ceux qui vont se positionner spirituellement, s'investir dans le service, qui vont véritablement élargir l'espace de leur temps et agir en conséquence. Je disais donc tantôt que j'ai pris vraiment cette instruction à cœur d'élargir l'espace de ma tente et je me suis investie dans ce travail spirituel. Dans la lecture de la parole de Dieu, j'ai sondé les Écritures, j'ai fait des recherches bibliques, j'ai invoqué l'Esprit de Dieu, j'ai cherché la face de l'Éternel, dans le jeûne, dans la prière, dans la supplication, dans la méditation, véritablement, j'ai cherché la grâce du Seigneur et j'ai sollicité l'équipement, j'ai vraiment sollicité l'orientation du Saint-Esprit pour être conduit par lui et ce que j'ai reçu, je l'ai transcrit et c'est ce que j'ai exprimé sur ces CD, sur ces messages pour partager. Et dans la progression de ce travail, j'ai réalisé en fait la profondeur de la pensée de Dieu, de ce qu'il voulait que je fasse, de la manière dont il voulait que je m'y prenne. Cela a vraiment été d'une grande richesse, non seulement pour moi-même, mais je crois que cela le sera aussi pour tous ceux qui désireront en tirer bénéfice, qui seront dans la même, un peu la même logique, le même désir, et qui pourront tirer bénéfice de travail qui a été fait. Lorsque j'ai reçu l'instruction d'élargir l'espace de tente, je ne me suis pas arrêtée au verset seulement d'Ésaïe 54:2, non. Parce que par principe, pour pouvoir véritablement comprendre, je regarde toujours avant, je regarde après. Donc pour comprendre ce verset, il a fallu que je prenne Ésaïe 54 dans son ensemble. Et je me suis rendu compte que l'un et l'autre se collaient. L'Esprit de Dieu m'a venu à part de comprendre le message. Parce qu'il y a l'instruction qui a été donnée, mais que l'Éternel l'expliquait, expliquait tout le contour de la promesse qu'il donnait, qui s'attachait à cette instruction-là, dont j'ai étudié dans son ensemble, et cela m'a vraiment éclairé, étayé pour comprendre ce qu'il fallait que je fasse. Parce que je pars du principe que Vraiment, même quand on reçoit une instruction divine, quand on n'a pas compris vraiment dans le détail, quand on n'a pas la visualisation de ce qui est demandé, il est difficile d'obéir et de mettre en application. On peut obéir parce qu'obéir, c'est une volonté. On dit, je veux obéir, Seigneur. Mais si on ne comprend pas ce qu'il faut faire, il sera difficile de passer à l'action. Il sera difficile de veiller à l'application de ça parce qu'on ne sait pas quoi faire, parce qu'on n'a pas compris, en fait, véritablement sur le plan pratique, ce qui est demandé, d'où ce travail de fond. Et dans mon parcours spirituel, mon travail de croissance spirituelle, j'avais vraiment tellement demandé au Saint-Esprit l'équipement nécessaire pour pouvoir comprendre les Écritures et pour pouvoir comprendre la pensée de Dieu, qu'il m'a donné une méthode de travail. Il m'a donné une méthode de travail. Je me souviens très bien, c'était en 2011, il m'a donné une méthode de travail. Et il m'a dit, chaque fois que tu travailleras comme ça, je me révélerai à toi et je te ferai comprendre la profondeur de ma pensée. Et depuis ce moment-là, véritablement, chaque fois que j'évolue avec cette méthode de travail-là, vraiment l'esprit me parle, l'esprit me révèle, l'esprit me fait comprendre, l'esprit me fait voir. Et c'est pour ça que je trouve intéressant de partager ce que moi j'ai reçu avec qui voudra écouter et qui pourra en tirer profit. Donc, Ésaïe 54 est un texte de l'Ancien Testament qui regroupe 17 versets. En fonction de l'éclairage et la compréhension de ce texte que j'ai travaillé, je l'ai subdivisé en 6 parties. La première partie, j'appelais ça les recommandations divines. C'est le verset 1. Ensuite, il y a les instructions de Dieu, les ordres que donne l'Éternel, qui correspondent aux défis que nous avons à relever. C'est le verset 2. J'ai appelé ça les instructions divines. La troisième partie, j'ai appelé ça les engagements de Dieu. Dieu prend des engagements avec nous par rapport aux instructions qu'il nous donne. Les engagements de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu nous promet quelque chose. Si nous appliquons les instructions qu'il nous donne, il nous promet quelque chose. C'est le verset 3. Ensuite vient la quatrième partie. J'ai appelé cela l'assurance de la restauration. Dieu nous rassure de la restauration qu'il promet. C'est les versets 4 à 10. La cinquième partie, c'est que Dieu va encore plus loin. Dieu va plus loin pour nous mettre à l'aise, pour nous permettre d'être en confiance par rapport à l'instruction qu'il nous donne, à ce qu'il nous ordonne de faire. Il nous décrit ses actions. Les actions qu'il va mener, son mode opératoire. Il nous dit lui-même comment il va procéder, ce qu'il a l'intention de faire et de la façon dont il va les faire. C'est les versets 11 et 12. Ce sont les actions, j'ai appelé ça, le mode opératoire divin. La sixième partie, ensuite, l'Éternel nous détaille l'héritage qu'il donne, l'héritage du serviteur. Il détaille cela. C'est les versets 13 à 17. Voilà les six parties qui compose ce que nous allons voir, Ésaïe 54. Et j'ai ajouté une septième partie, qui n'est pas des moindres, que j'ai appelée la mise en pratique des recommandations. Parce que je me suis dit, même pas seulement dit, ce qui est une réalité, puisque ça s'est imposé à moi. C'est une chose de comprendre ce qu'on te dit de faire. C'est une chose de comprendre la pensée de Dieu, d'obéir même à la pensée de Dieu. Mais il faut avoir une praticabilité, il faut pouvoir mettre cela en pratique. Et la mise en pratique répond à d'autres règles, répond à d'autres, à certaines mécaniques pratiques. Et ce qui est important de noter, c'est qu'il faut encore trouver le moyen de transformer la pensée, une instruction de Dieu, même bien comprise, en acte concret. Parce que la plupart du temps, moi-même, pendant mon parcours spirituel, j'écoutais des messages comme ça. Et j'écoutais les clés de certaines explications, certaines lois qui étaient détaillées. Et après, je me dis, oui, ça, on a compris. Mais après, on fait quoi? On fait quoi? Donc, on a bien compris qu'il faut aimer, on a bien compris qu'il faut faire ci ou ça. Mais bon, on s'y prend comment? On fait comment? Parce que ce n'est pas toujours évident. Donc moi, j'ai pensé, pour certaines instructions, certaines recommandations, il a fallu passer en pratique. Et ça fait partie de la septième partie de ce que j'ai mis en place pour certains aspects, où je fais part de la façon dont je me suis prise, ou la façon dont l'esprit m'a conduite à pouvoir mettre en pratique certains aspects des instructions que Dieu nous donnait. Voilà. Donc, l'ensemble de cette série va avoir 7 parties, mais ça ne veut dire pas que ça va avoir 7 messages. Nous sommes retrouvés avec beaucoup plus de messages, je crois une dizaine, douzaine de messages pour couvrir les 7 parties. Voilà. Donc, pour conclure cette introduction, qui était quand même un peu longue, mais c'est mieux de camper ça de cette façon. Ce site Héritage du Royaume, ainsi que la plupart des activités qui sont retrouvées, qui ont été proposées dans Héritage du Royaume, sont le fruit, en quelque sorte, de la mise en application de l'instruction élargie l'espace de ta tente. Voilà, qu'aujourd'hui, où je boucle vraiment ce site de façon claire, où je peux mettre ces messages en ligne pour pouvoir communiquer avec vous. C'est un peu le fruit de ce que je suis en train de vous partager. Et c'est le marque peut-être le début d'un processus voilà, d'élargissement et de communication. Et maintenant, dans le cadre de mon service spirituel, de mon ministère, des actions que je mène spirituellement, je peux désormais toucher plus de personnes, dépasser les limites, dépasser les frontières et répandre l'essence que Dieu met en moi, répandre ce que l'Éternel met en moi à d'autres personnes, d'autres villes, d'autres contrées, d'autres continents même, à travers le réseau Internet, ce qui n'était pas le cas avant. L'Éternel m'a ordonné d'élargir l'espace de ma tente, je lui ai obéi, et c'était un moyen pour moi d'élargir l'espace de ma tente en tant que servante de l'Éternel, de façon spirituelle, mais pour des actions aussi, même des œuvres des mains, dans le cadre de mon travail, etc. Voilà. Donc, j'espère que je n'ai pas été très longue dans cette introduction. Je veux remercier le Seigneur vraiment pour l'opportunité qu'il me donne de pouvoir communiquer avec vous. Père éternel, Dieu de grâce, merci, Papa. Merci au Père éternel, parce que par ton esprit de puissance en Jésus-Christ, notre Seigneur, tu nous rends capables, au Père éternel. Dans ta miséricorde, dans ta bonté, au Seigneur, tu tends la main, Seigneur, et tu nous touches. Tu nous attires à toi, au Père éternel. Notre Seigneur Jésus dit, personne ne vient à moi s'il n'est attiré par mon Père. Je te dis merci, au Père éternel, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pour que tu m'attires à toi, au Seigneur de ta puissance. Et qu'au Père éternel, que j'ai trouvé grâce à tes yeux, pour que tu m'instruis, Seigneur, et que tu m'ordonnes d'élargir l'espace de ma tente. Je te dis merci. Merci, au Père éternel, parce que tu as entendu mes cris, tu as entendu mes peurs, mes supplications. Seigneur Dieu, Père puissant, dans le désir de te servir, Seigneur, au Père éternel. Et tu m'as ordonné, au Seigneur Dieu, d'élargir l'espace de ma tente. Et par ton esprit, tu m'as instruit, au Père éternel, sur ta pensée. Je te dis merci, Seigneur. Merci. Gloire soit rendue à toi, Père éternel, qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ, notre Seigneur et Maître, et qui répand par nous, Seigneur, tes enfants, en tout lieu, le dehors de ta connaissance. Et aussi par qui, Seigneur Dieu, Père Tout-Puissant, tout nous est rendu possible par le Saint-Esprit que tu nous as envoyé. Merci, Papa. Merci, au Père éternel. Je te remets toute cette série, Seigneur, en tes mains. Oh, sous le contrôle de ton esprit, au Père éternel, dans ta grâce et dans ta miséricorde. Merci, au Seigneur, que ton nom soit glorifié. Oui, Père éternel, que toute la gloire te revienne. Que le nom de notre Seigneur Jésus soit glorifié par ton esprit de puissance agissant en nous. Mes frères, mes sœurs, j'ai hâte de vous retrouver au travers de chacun des messages qui sera diffusé sur cette série. Que la grâce excellente de notre Seigneur Jésus soit sur vous, pour vous rendre capable d'élargir l'espace de votre temps. À très bientôt. Shalom.